Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
Origine, c'est le nouveau roman de Dan Brown. Encore plus ambitieux, plus étonnant, encore plus addictif. Origine de Dan Brown, aux éditions Lattès, numéro 1 des ventes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Le retour en France d'un trésor national, le livre d'heures de François Ier, manuscrit estimé à 10 millions d'euros, est conservé en Angleterre, va être racheté par le musée du Louvre. Les coulisses de cette spectaculaire restitution en exclusivité avec Monique Younes dans un tout petit instant. Au sommaire du journal musical de Stephen Bellery, le nouvel album de Marina Kaye, explicite, 2 ans après le triomphe de Fearless. Autre sortie de la semaine, la fête est finie du rappeur Orelsan, dont le premier clip basique a déjà été vu plus de 20 millions de fois. Une rencontre rare, l'américaine Danielle Steele, la romancière la plus lue au monde, s'est confiée à Bernard Lehu et publie L'enfant aux yeux bleus, son 100e roman en 40 ans de carrière. Enfin, le violoniste serbe Nemanja Radulovic interprète un monument de la musique romantique, le concerto pour violon en ré mineur de Tchaïkovski, notre classique d'or RTL du mois, nous dira Charlotte Latou.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Monique Younes, oui. Vous nous annoncez ce matin en exclusivité que l'unique vestige des trésors des Valois, qui ont régné sur le royaume de France de 1328 à 1589,
oui, monsieur,
va être acheté par le musée du Louvre.
Oui, et c'est une acquisition historique, tellement l'œuvre est exceptionnelle. Il s'agit d'un joyau de l'orfèvrerie française sans équivalent, un petit livre d'heures, c'est-à-dire un recueil de prières manuscrites que l'on portait sur soi comme un bijou. Il fait à peu près 6 par 8 cm. D'abord, il est exceptionnel par ses enluminures, m'a fait remarquer la conservatrice en chef du Louvre, Cécile Scalierès.
Par exemple, la page sur laquelle nous sommes ouvertes est aussi une iconographie qu'on trouve rarement dans les livres d'heures. Ce qui est intéressant, plus que les enluminures, c'est la reliure, objet d'art. Alors, il y a des rubis, il y a des émeraudes, il y a beaucoup de parties émaillées si vous regardez tout ce qui est entre les pierres précieuses. Et surtout, la chose très intéressante, ce sont les deux cornalines qui sont gravées en creux, qui ornent les deux côtés de la reliure.
Ah, les cornalines, vous savez, ces pierres fines rouges, gravées d'une descente de croix, d'une délicatesse exceptionnelle. Mais exceptionnel, ce livre d'heures l'est aussi par sa provenance. Il a appartenu à François Ier, qui l'a acheté le 2 janvier 1538 pour l'offrir à sa nièce, Jeanne d'Albret.
Ah oui.
Qui est devenue reine de Navarre. Et à la mort de celle-ci, c'est son fils Henri IV qui hérite du précieux objet. Et quand le roi trépasse, le livre d'heures se retrouve dans les collections du cardinal Mazarin.
Bref, il aura fréquenté les plus grands.
Et ce n'est pas fini, parce qu'à la Révolution, le livre d'heures disparaît, on le croit brûlé, comme beaucoup d'autres choses, mais il réapparaît au XVIIIe siècle dans de prestigieuses collections anglaises, notamment celle du directeur de la Banque d'Angleterre, Alfred de Rothschild. Ses descendants le vendent en 1942 à S.G. Phillips, une des plus anciennes famille d'antiquaires du royaume, et depuis, plus de nouvelles, jusqu'à ce que les dirigeants du Louvre apprennent tout récemment que les antiquaires Phillips mettent en vente ce prestigieux livre d'or. Ils en veulent 8 millions de livres, soit 10 millions d'euros. Branle-bas de combat au Louvre, qui fait classer le livre d'or œuvre d'intérêt patrimonial majeur, ce qui permet au musée de bloquer la vente pendant 3 mois, le temps de trouver les 10 millions d'euros demandés
et
par les Phillips.
C'est évidemment là que vous intervenez, Monique.
Évidemment, évidemment, mais juste pour vous annoncer que de généreux donateurs se sont déjà présentés pour aider le Louvre à réunir la somme. LVMH verse 5 millions d'euros au pot.
Il en manque donc toujours encore 5.
Je me trouve fort 5, en 10. Calcul, mon niveau de nous. Alors, une nouvelle campagne au don va solliciter la générosité de tous les Français. Le Louvre espère récolter par ce mécénat 1 million d'euros grâce à l'opération Tous Mécènes, et le musée sollicitera également d'autres entreprises qui peuvent être intéressées puisqu'elles peuvent défiscaliser, comme on dit, 90% de la somme donnée.
Mais est-ce qu'on peut le voir, le livre d'heures, avant de donner de l'argent éventuellement?
Mais enfin, les gens du Louvre ont pensé à tout. Le livre d'heures de François Ier fait partie des trésors montrés dans l'excellente exposition qui vient d'être inaugurée au musée François Ier et l'art des Pays-Bas. C'est une exposition où l'on a apprend une chose essentielle et inconnue. François Ier n'a pas uniquement collectionné des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Il était tout autant passionné par les œuvres des artistes venant du Nord. Et sa collection comprenait des œuvres d'artistes célèbres, comme Jean Clouet, et d'autres qui le sont moins, comme Godefroy le Bâtard,
Corneille
de Lyon. Vous ne le connaissez pas, Godefroy? Eh bien, vous allez le voir au Louvre. Il y est comme Jos Van Cleve, qui a peint une Joconde nue, présente également dans l'exposition. D'ailleurs, j'ai fait remarquer à Cécile Scalierès que l'exposition montre aussi le goût de François Ier pour les portraits de femmes très légèrement vêtues.
Oui, il y a cet aspect-là, bien sûr, qui est bien connu. Peut-être que ça a compté, mais je pense quand même on conserve très très peu de choses de cette peinture flamande qu'il a achetée, parce qu'il a dû l'acheter à des petits marchands, comme ça. On a des paiements, il achète par lot. C'est-à-dire, il n'achète pas tel tableau, tel chef-d'œuvre comme on achèterait un Raphaël. Les Raphaëls du roi sont des cadeaux, ce ne sont pas des choses qu'il a achetées. Mais il aimait ce qu'il y avait de drôle dans la peinture. Vous savez, le côté populaire de la peinture flamande, on appelait ça des drôleries, c'est-à-dire des tentations de Saint-Antoine avec des monstres et des choses comme ça.
Voilà, et cette exposition...
Tentations de Saint-Antoine
François,
au passage, hop.
Et hop, avec des monstres, bah surtout, oui. Vous allez la voir.
Et cette exposition François Ier et l'art des Pays-Bas nous donne un très bel aperçu de la richesse d'inspiration des artistes nordiques à partir de 1515 et leur présence massive en France à cette époque. Tableaux, vitraux, tapisseries, retables, enluminures, dessins, tout est d'une précision, d'une grâce et d'une grande sensualité. Les personnages nous regardent, les paysages nous invitent. C'est la force de l'art de la Renaissance de nous faire sentir négligés, approximatifs, paresseux. Alors laissez-vous vraiment tenter à visiter le Louvre, découvrir le goût de François Ier pour l'art nordique et voir ce trésor national qu'est le livre d'heures de François Ier. Vous sortirez plus facilement votre carte bleue, j'en suis certaine. Je vous signale que vous pourrez déduire de votre déclaration fiscale 66% de la somme que vous allez donner. C'est beau de contribuer à l'achat d'une œuvre d'exception, non ?
Ben on en reparlera. Merci beaucoup, Monique Younès.
J'espère que vous allez payer.
Ben voyons.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les audiences avec Médiamétrie, Isabelle.
Rapidement, eh bien écoutez, Joséphine Ange-Gardien est en tête, 5 600 000 téléspectateurs, 22% du public sur la une, devant Broadchurch, 4 900 000, c'est un joli score. La 6 fermant le trio de tête avec 2 200 000 téléspectateurs devant Toy Story 3. À propos d'M6, un petit point d'actu. Après le retrait du producteur Gilbert Rozon accusé d'agression sexuelle, M6 a revisionné les 5 émissions déjà tournées de La France à un incroyable talent saison 12, ce télécrochet dont Gilbert Rozon est le juré omniprésent depuis le début. Voyant qu'il était impossible de l'enlever des images, la chaîne a décidé de ne rien diffuser et de lancer de nouveaux tournages avec qui ?
3 jurés, Hélène Segarra, Éric Antoine et Kamel Wally. Ils seront accompagnés d'un guest, Amir et Soprano. Et donc, on va reprendre des tournages avec les candidats. On va aboutir à une finale en direct. Les tournages sont d'ores et déjà fixés. À la fin de la semaine, les artistes qui ont beaucoup investi sur cette émission, qui travaillent énormément, eh bien, ils vont pouvoir se présenter et donc accéder éventuellement à la finale lors de ces émissions de phase finale.
Voilà, c'est le patron de M6, Frédéric de Vincel, au micro de Laurent Marsic. 350 000 euros l'émission jetée.
Qui remplace Rozon en fait ?
Aucun, personne. Ils sont 3, plus donc Soprano et Amir.
Merci beaucoup Isabelle. On va balayer l'actualité musicale à présent. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
2 ans et demi après Fearless, écoulé à 300 000 exemplaires, Marina Kaye est de retour. Elle vient de publier son deuxième album intitulé Explicit.
13 morceaux dans la droite ligne de son premier disque porté par le tube Homeless et auréolé du prix de l'album RTL de l'année. On y retrouve sa puissance vocale, son univers chimérique et sombre, une production lourde et nouveauté. Marina Kaye a glissé 3 titres en français, dont Merci quand même, extrait.
Et pour cet instant, merci quand même, j'y repenserai quand je tuerai le temps, traînerai mes chaînes et mes cris d'enfant.
Marie Naquet évoque en filigrane de cet opus le succès. Je suis partie en vrille, dit-elle, des mois sombres, compliqués, alcoolisés, confidence.
Bah, on se retrouve surtout déjà face à soi-même, parce qu'après une exploitation de 2 ans et une tournée de salles et de festivals et de plein de choses avec plein de monde autour où on vit en équipe en permanence, quand on rentre chez soi, bah, ça fait bizarre. Et je suis quelqu'un qui apprécie autant la solitude que j'en ai peur. Je me suis sentie un peu paumée vis-à-vis de moi-même et du coup je me suis retrouvée à me chercher en fait, comme se chercherait n'importe quel jeune adulte ou ado.
Vous êtes jeune aussi, c'est
bah
pas
oui,
facile à gérer.
J'ai 19 ans, hein. C'est compliqué bien sûr, mais bon, je pensais faire ma crise d'ado à 16 ans, je l'ai faite à 18. Hein. Chercher en fait à tuer ce vide à l'intérieur en s'entourant en permanence et en étant tout le temps dehors et en faisant tout dans l'excès. Mais plus on fait ça, plus on se sent mal et seul en fait. Donc ça n'aide pas. Oui, c'est flippant ce qui m'est arrivé quand même, parce que j'ai complètement pété un plomb, hein. Complètement.
Et cette phrase « I'm drinking until I'm drunk »,
Ouais. L'alcool a vraiment été un réconfort pour vous à ce moment-là ?
C'était de l'intoxication en fait. C'est que j'étais vraiment en train de m'intoxiquer l'esprit pour éviter de penser en fait. On boit et puis on oublie et puis tout devient mieux, joyeux. Mais bon, le lendemain, quand on se réveille, on n'est pas bien, on est fatigué, mais on recommence parce qu'on se sent pas bien et c'est un cercle vicieux quoi. J'ai un petit peu perdu mon lien avec la musique à cette période et il a fallu justement que je me force un peu à retourner en studio. Et paradoxalement, c'est là que j'ai écrit Something. Donc, c'est là que, à Londres, voilà. Et c'est là que j'ai eu donc, mon plus beau rapport, entre guillemets, avec moi-même et avec ma musique. C'est quand j'ai eu vraiment l'impression de perdre le fil avec elle. I just wanna feel something. I
just wanna feel something. Marina Kay, de retour et lumineuse, vient de sortir Explicite. Elle chantera dans le grand studio RTL le 4 novembre à 15h.
Avec notre camarade Éric Jean-Jean.
Exactement.
Dans l'actu également, la sortie de La Fête est finie, nouvel album d'Orelsan, hein, Steven.
Orelsan, rappeur de 35 ans, va faire du bruit. 6 ans après Le Chant des Sirènes, ce troisième effort solo devrait être l'un des succès surprises de cette fin d'année.
T'aimais mieux quand c'était moins connu, sauf que tu me connaissais pas non plus. Je croyais que c'était cool d'être célèbre. Quand est-ce que ça s'arrête ?
14 titres intenses, percutants, une plume acide, acerbe, des mots qui piquent, des formules qui claquent, le tout emballé avec éclectisme, piano, saxophone, boucles électro, vocodeur, synthétiseur. Orelsan passe un cap.
Quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les fers, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand il y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser.
Orelsan, rappeur, chanteur populaire et flingueur provocateur. Certaines phrases du disque choqueront certains, on ne les diffusera d'ailleurs pas à 9h. J'ai rencontré Orelsan, l'occasion de parler avec lui de son écriture.
J'ai demandé à Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop con.
C'est pour ça que ça m'embête quand on sort les phrases de leur contexte. Quand je dis vous êtes trop con, tu peux le lire parce que vous êtes trop con. Mais la chanson elle commence parce que vous êtes trop con. Et rien que le fait de le prononcer comme ça, il y a déjà une ironie. C'est ça le travail d'écriture quoi, c'est trouver les bons mots au bon endroit, réussir à taper dans la bonne limite en fonction de la sensibilité de chacun. J'ai envie des fois de m'amuser avec ça.
100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique.
Tout le monde peut être heurté. Des fois, je regarde des films que j'adore et ça me touche, ça me heurte, tu vois. Après, je pense pas qu'on puisse interdire l'art, en fait. C'est ça le problème. Parce que dans ces cas-là, on peut pas faire avec les sensibilités de tout le monde. La façon dont fonctionnent les médias, la façon dont fonctionne Internet, tout ressort. Il y aura forcément quelqu'un qui sera choqué par quelque chose. La musique, et notamment le rap, ça permet de parler de certains sujets. À un moment, si tu cherches à rien provoquer, je veux dire, faire de l'art, c'est provoquer des choses, quoi. Des émotions, ou juste heurter un peu, ou juste faire réagir les gens. Forcément, il y a une petite part de provoque quand tu crées quelque chose, mais si tu cherches à rien déclencher chez personne, ça n'a plus aucun intérêt, quoi.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des plis, danser sous les stroboscopes de Jiffy. J'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille.
La fête déjà est finie, le formidable nouvel album d'Orelsan vient de sortir. Il part en tournée dès le 2 février. Notez qu'Orelsan fait chanter Stromae pour la première fois depuis le succès immense de Racine Carrée. Leur duo en forme de tube s'appelle La Pluie.
Toujours autant de pluie chez moi.
Stromae, merci beaucoup. Steven Bellery, on va parler littérature maintenant, c'est la femme
dans
la
un
plus
tout autre genre.
Dans un tout autre genre, en effet. Elle est la femme la plus lue au monde, elle est américaine, elle s'appelle Danielle Steele, un étonnant phénomène de librairie et pourtant une personnalité très rare dans les médias. Vous l'avez rencontré, Bernard Lehu, à l'occasion de la parution en France de son 100e roman, L'Enfant aux yeux.
100e roman, oui, vous avez bien entendu, et plus d'un demi-milliard de livres vendus. Danielle Steele est une habituée de la démesure dans son travail, son succès et sa vie personnelle, mariée 5 fois, mère de 8 enfants. Elle publie 2 à 3 livres par an. Et depuis ses débuts, il y a 40 ans, quand elle se réfugiait la nuit dans sa lingerie pour ne pas déranger sa petite famille, Danielle Steele utilise la même machine à écrire, une bonne vieille Olympia.
C'est un personnage très important.
Mais alors et que vous avez depuis...
que je l'ai acheté tout au début de ma carrière. Je l'ai acheté d'occasion pour, je crois, $20. Et j'ai écrit tous mes livres dessus depuis.
Ah, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous la soumettez à une sacrée cadence, cette machine.
Oui,
c'est du costaud, alors.
Elle a survécu jusque-là. J'espère qu'elle va continuer. Mais j'adore taper sur les vieilles machines. Je suis très maladroite avec les ordinateurs. L'idée d'appuyer sur le mauvais bouton et d'effacer tout un livre me rendrait hystérique.
Alors, au-delà des problèmes de frappe, comment expliquez-vous l'incroyable succès de Danielle Steele?
Oui, succès d'autant plus remarquable qu'il s'est construit en marge de la presse. Alors, il s'appuie sur un lien direct noué avec le public grâce à un réseau de fan clubs. Celui de Danielle Steele en France compte 30 000 membres, mais le marketing ne fait pas tout. Il faut ajouter le savoir-faire de la romancière américaine pour répondre aux attentes de son lectorat, en grande majorité féminin, évidemment, et lui offrir le miroir de ses propres préoccupations.
J'écris de la vraie vie, des événements qui nous secouent tous, des inquiétudes que nous avons, des drames que nous vivons tous. Mais il y a quand même, je ne me suis pas rendu compte pendant très longtemps, mais je donne, je crois, de l'espoir aux gens. Et je leur montre que les gens les survivent. C'est un peu ça. Je crois que la vérité dans les livres, les personnages qui sonnent vrais, je crois que c'est ça qui touche les gens et qui leur plaise.
À propos de personnages, qui sont ceux du 100e roman de Danielle Steele, L'enfant aux yeux bleus, rappelons-le, publié aux presses de la Cité.
Alors, une jeune femme au bord du suicide après la mort de son mari et de son fils et un enfant abandonné dans les rues de New York, deux destins qui se croisent à la veille de Noël.
J'adorais l'idée de tous les deux, ils sont à un très mauvais moment de leur vie, et j'adorais l'idée de l'effet qu'ils pourraient avoir l'un sur l'autre. Lui, il n'a plus d'espoir, il n'a plus confiance en personne, il a 13 ans, il a été dans la rue depuis longtemps, et elle a perdu sa famille, et elle découvre ses secrets, et peu à peu, ils ont confiance l'un dans l'autre. Et j'aimais beaucoup cette réciprocité. C'est un livre qui me touche beaucoup, donc c'est très important pour moi que ce soit le 100e en France.
Dites-moi Bernard, d'où vient l'excellent français de Madame Steele ?
Eh bien qu'américaine, elle a reçu l'éducation française et elle partage sa vie des deux côtés de l'Atlantique.
Mon cœur est à Paris, mais mes enfants sont en Amérique. Alors, toutes les 3 ou 4 semaines, je fais le tour de tous mes enfants pour les énerver. Maman arrive et je visite tout le monde et je reviens.
Pourquoi vous vous sentez d'une certaine manière française ? Qu'est-ce qui vous plaît ici chez vous ?
C'est une façon de vivre, c'est la qualité de vie. C'est très, pour une carrière, l'Amérique est formidable. Et je travaille toujours là-bas, j'écris mes livres là-bas. Mais la vie est tellement plus douce, plus tendre. Ça a plus de sens ici pour moi et je me sens plus à l'aise ici.
Voilà, c'est QFD. Danielle Steele, la femme la plus lue au monde. Elle publie donc L'enfant aux yeux bleus aux presses de la Cité, son 100e roman.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h23, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Un monument du romantisme, classique d'or RTL du mois. Il s'agit du concerto pour violon de Tchaïkovski, interprété par le violoniste serbe Nemanja Radulović sur son nouvel album.
L'histoire de Nemanja Radulović, c'est l'histoire d'un enfant prodige. Violoniste ont enregistré ce concerto en ré majeur. Nemanja Radulović lui-même a commencé à le jouer vers 12-13 ans, très tôt donc, au vu des qualités de maturité et de virtuosité qu'il requiert. Composée en 1878, cette musique c'est un peu l'apogée du romantisme. Elle est riche, expressive, avec des moments lyriques et d'autres bouillonnants où le violon est toujours parfaitement mis en valeur. On y entend une grande variété de thèmes et d'émotions. Et si le violoniste a ajouté beaucoup de tendresse par rapport à d'autres interprétations au premier mouvement qu'on est en train d'écouter, eh bien on entendrait presque dans le deuxième mouvement une chanson traditionnelle slave.
«
la ligne est très fine pour entrer dans le kitsch. Donc il faut faire beaucoup plus attention dans le romantisme que dans le classicisme ou le baroque, où on a finalement plus de liberté parce qu'on a moins d'indications. Là, il faut interpréter les indications qui sont dans la partition.
Nemanja Radulović est né en Serbie en 85. Il a été un enfant star dans son pays en donnant déjà des concerts à 8 ans. Lui et ses sœurs avaient un don pour la musique et leurs parents ont voulu leur donner une chance de réussir en quittant Belgrade. Après la guerre en Yougoslavie, c'était en 99.
Mes parents ont tout quitté vraiment en Serbie, leur travail, les maisons et tout ça, pour nous permettre de continuer nos études de musique avec mes sœurs. Parce que c'est vrai qu'après la guerre, c'était même plus difficile que pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, on a toujours... une envie, c'est de survivre. Mais une fois que le danger de la vie est passé, là, on voit que c'est vraiment un moment très difficile. Voilà, je ne sais pas si c'était à refaire avec mes enfants un jour. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de tout quitter.
Alors c'est émouvant et incroyablement d'actualité cette histoire, mais vu le succès de leur fils, ils ont bien été inspirés de venir ici.
Oui, hein, c'est sûr, d'autant que pour Nemanja, après le conservatoire à Paris, il y a eu assez rapidement les premiers albums, les deux victoires de la musique. Et puis ce qui est extra avec ce garçon, c'est qu'il est toujours gentil, plein d'humilité. Alors il a plutôt le look d'un musicien qui ferait du hard rock avec ses cheveux longs et ses Rangers, mais c'est un être d'une douceur sans nom. Et pourtant son jeu reste plein de vigueur, d'énergie, et puis il a le don d'apporter une humanité rare à sa musique. Alors c'est vrai qu'il prend souvent des libertés dans ses interprétations, mais il ne dénature jamais les œuvres qu'il joue. Par exemple, sur ce nouvel album, en plus du concerto, il joue aussi les variations rococo de Tchaïkovski, mais pas au violon, comme on a l'habitude de les entendre. Non, ça, ce serait trop simple. Lui, il les fait arranger pour alto. J'ai oublié de vous dire qu'il joue aussi de l'alto, hein, parfaitement, depuis l'enfance.
Du gros violon, donc.
Voilà, l'alto, voilà, un instrument un peu plus grand que le violon, avec un archet un peu plus lourd, un peu plus court aussi. Il produit un son plus chaleureux, mais tout aussi brillant. Écoutez.
Plus le temps passe... plus j'ai envie de me détacher de l'objet de l'instrument. Je trouvais que les variations rococo sonneraient mieux à l'alto, avec un registre quand même un peu plus grave, mais qui permet aussi d'aller dans les aigus. C'est ça le challenge, d'essayer d'avoir toujours la même personnalité malgré l'instrument qui change.
L'album Tchaïkovski de Nemanja Radulović, aux côtés de l'ensemble Double Sens qu'il a formé avec ses copains du conservatoire, est paru chez Deutsche Grammophon. Il y a aussi, c'est vrai, hein, le philharmonique Borussian Istanbul qui joue à leur côté. Et c'est notre classique d'or RTL du mois.
Il est 9h30. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, donc oui, il est grand temps de retrouver Julien Courbet.
Il est là, il est prêt. Deux avocates, une équipe, un micro, un fil électrique. Non, mais vraiment, c'est du grand matériel.
Vous avez un fil électrique?
Oui, pour alimenter tout ça, contrairement à ce que croient les gens.
Eh bien, vous savez, c'est magnifique.
Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, monsieur Calvi.
Bonne journée, on vous
écoute.
Merci à vous. Vous écoutez RTL.